les portes de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.
Alors bonjour à tous les auditeurs des Portes de la Connaissance. Alors aujourd'hui on va faire un voyage différent. Vous savez, on a l'habitude de voyager un petit peu et puis on doit faire des émissions sur les métiers. Et on a une grande panoplie d'émissions qui parlera. On parlera des pilotes de chasse, on en a déjà parlé, des pilotes de ligne. On parlera des pilotes de ligne, on va parler des pompiers, on va parler... des voyages en plein océan avec les métiers de la mer. En fait, on va avoir une panoplie d'émissions qui sont très très belles. Donc, je vous invite à les suivre tous les mois. Il y aura deux émissions consacrées aux métiers. Alors, on aura aussi des émissions sur les étoiles et sur les ovnis comme d'habitude, mais on va consacrer notre temps à faire des émissions culturelles sur les métiers. Donc deux émissions, trois émissions seront réservées tous les mois. Et vous avez Culture et Patrimoine des Portes de la Connaissance avec Evelyne Padrino qui vous est réservé une fois par mois. Vous le savez, vous avez votre rendez-vous avec elle. Donc voilà. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui a fait partie d'une association de spéléologie. La spéléologie, ben, on va en parler pour ceux qui ne connaissent pas. Tout le monde sait à peu près ce que c'est que la spéléologie. Hein. Je veux dire, on a tous vu des spéléologues, on a tous vu des grottes une fois dans notre vie. On a tous vu des gens visiter des lieux interdits, comme on dit ça. Et je crois que on va aller visiter ça avec ce monsieur. Donc, bonjour.
Bonjour.
Alors... Vous, d'abord, expliquez-nous un petit peu qui vous êtes, d'abord, et qu'on fasse connaissance avec vous, et qu'on fasse ce beau voyage dans la spéléologie.
Bien volontiers, merci. Bon, la spéléologie m'est tombée dessus, disons, comme certainement à beaucoup d'autres personnes, tout à fait par un hasard de rencontre. Mais comme bien souvent, le hasard n'est que quelque chose qui est déjà avec des potentialités toutes particulières, je devais être préparé à ce genre de choses. Disons que, jeune, j'étais déjà très orienté sur toutes les actions en lien avec les milieux naturels, et plus particulièrement la grande nature, les grands espaces. Et de plus, j'avais un esprit de curiosité dès que j'étais gamin. Et au fil du temps, le hasard m'a fait rencontrer une personne quand j'étais sur le secteur de Talence du côté des arts et métiers, a rencontré un monsieur qui préparait une expédition pour l'Amazonie. Nous sommes devenus amis et au fil du temps... On a résolu qu'il fallait faire quelque chose, il y avait des moyens à l'époque. Donc nous avons décidé, c'était lui, il était chef de l'expédition, c'était un ethnologue, et comme il était plus âgé que moi, il avait estimé que mon côté plus jeune pouvait lui permettre d'avoir quelques éléments intéressants pour l'expédition. Il était venu nous rejoindre à cette époque-là une autre personne qui, elle, était passionnée par le cinéma. Et donc l'expédition, qui a été baptisée plus tard Expédition Xingu, du nom d'un des affluents de l'Amazone. Et je me suis retrouvé embarqué avec cet ethnologue, plus un collègue jeune également pour le cinéma, à être responsable de la logistique. De fil en aiguille, j'ai lâché mes études, j'étais sur Citerre. Et je suis parti à l'armée dans le cadre d'une collaboration pour pouvoir préparer cette expédition de façon correcte. Je me suis donc retrouvé à aller en centre d'entraînement commando avec opération survie et ainsi de suite. Et puis 1968 est arrivé et tout s'est arrêté brutalement. L'expédition n'a pas pu se faire. Comme il faut assurer les fins de mois, comme beaucoup, il était nécessaire de reprendre le collier des activités traditionnelles pour vivre. Et c'est comme cela que, par un parcours assez atypique, je me suis retrouvé à être également dans l'enseignement. Et là débute ce qui va être le pied à l'étrier de cette activité que est la spéléologie. En allant faire mes cours, comme je n'étais pas très en différence d'âge avec les grands élèves qui étaient les miens, nous parlions, nous racontions quelquefois en dehors des enseignements, un peu de chacun partageait un peu de nos vies. Et un jour, il y en a un qui me dit « Oh, mais monsieur, moi, le dimanche, je sors et je vais faire une grotte. » Ah, comme j'étais curieux, je dis « Une grotte, et où ça ?» Il m'indique un endroit. Et là, je dis à mon épouse « Mais ça te dirait, dimanche, là, d'aller faire un tour ? Il paraît qu'il y a une grotte à aller voir. » Oh, elle me dit « Pourquoi pas ?» Et c'est ce qui s'est passé. Donc, nous nous sommes retrouvés, mon épouse et moi, dimanche, devant une partie ombragée, sombre. J'apprendrai beaucoup plus tard que le trou en question correspondait à un joint de stratification et qu'une partie de petite rivière de surface s'engouffrait sous terre. Nous étions tous les deux seuls et devant cette cavité inconnue, avec nos petites lampes, des lampes de poche tout à fait ordinaires, nous sommes rentrés doucement en éclairant piteusement le milieu qui absorbait nos pauvres petites lampes, ce qui fait que nous sommes retrouvés au bout de quelques mètres, totalement dans une partie silencieuse, sans lumière. Et là, ça a été un véritable basculement. Nous avons découvert ensemble un milieu que nous ignorions totalement. Nous avons progressé de quelques mètres avec timidité. Ça nous a énormément marqué. On a senti qu'il y avait là quelque chose d'assez extraordinaire, que nous basculions dans un univers totalement autre que celui du quotidien, où il y a le jour, la lumière, le bruit. Nous sommes ressortis parce qu'en plus, nous avions une impression d'être dans un univers étrange. On entendait comme une petite cascade au loin qui résonnait, ça nous semblait être quelque chose de géant. Donc nous sommes rentrés. Dans la semaine qui a suivi, on s'est tourné vers des bibliothèques spécialisées et on a commencé à bouquiner tout ce qui pouvait être de près ou de loin en relation avec cette pratique qui s'appelle la spéléologie. Extrêmement motivés, nous avons dit le week-end prochain on y revient. Donc là on est reparti de nouveau, on s'est enhardi, et puis là où nous nous étions arrêtés la première fois, nous sommes passés comme si de rien n'était et nous sommes allés beaucoup plus loin. Bon, il est vrai que entre temps nous avions réaménagé un petit peu nos équipements et nous avions un éclairage un peu plus significatif. Et lorsque nous sommes arrivés à une partie un peu impressionnante, c'était une partie de vide, on apprendra beaucoup plus tard la signification de cet endroit, on appelle ça une marmite, et là, on a dit, oulala, je ne descends pas là-dedans, c'est immense, pas possible. Donc on est reparti. Et puis de fil en aiguille, on en a parlé à des amis qui ont dit, oui, on vous accompagne. Et cela s'est perpétué, amplifié, au point qu'à partir de 1975-76, nous nous sommes retrouvés être tout un groupe de copains, amis, d'oreille et de bouche à oreille, qui ont fait qu'on a progressivement touché à la spéléologie plus pratique. Voilà, c'est un petit peu les premiers contacts que nous avons eus pour débuter nos premiers pas de ce qu'on appelle la spéléologie, le spéléologue étant celui qui pratique la spéléo.
D'accord. Alors, on a entendu donc vos débuts en spéléologie. Pourquoi avoir créé une association justement par rapport à ça ? Parce que on a les débuts, donc on voit les prémices de ce que vous avez fait, mais l'association ça a pour but d'emmener des gens, donc de partager en fait indirectement votre passion avec les autres. C'est pour ça que vous avez créé votre association, je ne me trompe pas ?
Absolument. En fait, étant enseignant et par nature aimant partager, étant très attiré pour diverses raisons qui me sont particulière vers l'humain, j'ai eu envie de partager, de faire découvrir à d'autres ce que nous avions nous-mêmes découvert, c'est-à-dire un milieu naturel très particulier, avec une atmosphère tout aussi particulière, qui permet finalement de faire une forme de basculement entre un univers diurne, agité, bruyant, et un univers sombre, ténébreux, dans le calme et le silence, où on se retrouve chacun un peu isolé du monde, pour ne pas dire beaucoup, et avec pour seul cheminement la propre lumière que nous amenons avec nous. Et lorsqu'on est à plusieurs, eh bien, ce sont toutes nos lumières ensemble qui permettent de faire comme l'équivalent d'une bulle de lumière qui chemine à l'intérieur de la grotte ou de la caverne et qui permet de cheminer. Donc ça s'ouvre devant, ça se ferme derrière. Il faut s'aider les uns les autres, on partage les émotions. C'est un milieu particulièrement riche au niveau émotionnel. Et au fil du temps, on finit par apprendre le milieu dans lequel on se déplace.
Alors, quel genre de public vous avez ? Est-ce que c'est un public de jeunes, de gens aguerris, de gens qui ont envie de découvrir la spéléologie, de professionnels de... Qu'est-ce que vous avez comme genre de public ou un public plutôt plus âgé ? Est-ce que vous avez un public... quel genre de public vous avez, tout simplement ?
Le public est assez diversifié. Et ça peut être surprenant, ça peut être des relativement jeunes enfants qui ont lu ou entendu parler de ce qu'étaient les grottes et la spéléologie. Et donc souvent les parents viennent taper à la porte pour dire « Tiens, notre petit ou notre petite est intéressé par ce domaine, est-ce que vous pourriez la prendre, le sortir pour une balade ?» Ça peut être des personnes âgées ou relativement... déjà stables dans la vie, qui n'ont jamais rien fait de cet ordre-là, et qui disent, bon, ben voilà, un tel de la famille va prendre sa retraite, on a décidé de lui faire une surprise, est-ce que vous pourriez le prendre pour lui faire découvrir le milieu ? Après, il y a des personnes qui participent aussi à des découvertes qui sont organisées au niveau de la Fédération française de spéléologie. Et ce sont des journées en quelque sorte, je ne dirais pas portes ouvertes, mais cavités entrouvertes pour pouvoir permettre à ceux qui seraient motivés d'approcher en étant encadrés de ce que représente le milieu de la spéléologie et les activités qui vont avec. Voilà, ce sont des organisations qui se font en général le mois de septembre, début octobre ou plus tard, et qui permettent à des gens qui s'inscrivent préalablement de venir découvrir les parcours que nos terrains de jeu, on dit terrain de jeu, c'est le milieu calcaire dans lequel le spélo a pour habitude d'évoluer, mais ce n'est pas le seul.
D'accord. Est-ce que vous avez fait des sorties avec des grands professionnels de la spéléo, ou est-ce que c'est resté un titre associatif, une découverte purement associative ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que ça vous est arrivé de faire venir des professionnels pour faire des parcours ?
Pas du tout, parce que, à part des rencontres fortuites liées à des domaines scientifiques ou culturels, pour des raisons, donc, puisque vous aviez perçu tout à l'heure que le côté aventure ne m'était pas indifférent, bon, j'ai eu rencontré il y a très longtemps, mais ça n'a rien à voir avec les cavernes, Paul-Émile Victor, où j'ai eu rencontré, par contre, c'est lié aux cavernes, Haroun Taziev, le célèbre volcanologue. Voilà, donc là, on rencontre effectivement des gens au niveau scientifique ou de la grande aventure noble. Pour ce qui concerne la notion de terrain de jeu, on parle ici, pour l'essentiel, des milieux calcaires. Alors, on dit terrain de jeu parce que c'est souvent ce qu'on appelle le quartz. Le quartz, c'est un mot qui tient son nom de régions particulières qui sont situées en Slovénie et en Croatie et qui permettent d'exprimer globalement l'esprit de ceux qui s'intéressent à ces domaines, ce que représente un grand massif avec une particularité de calcaire qui sont soumis à des perturbations physico-chimiques diverses.
D'accord. Est-ce que... Alors, qu'est-ce que vous avez découvert d'abord, vous allez dans les régions... D'abord, vous restez dans cette région, dans la région Aquitaine, pour faire de la spéléologie, ou est-ce que vous allez beaucoup plus loin ?
Alors, au fil des années, on a débuté, comme beaucoup d'autres le font encore actuellement, par le parcours des régions dites donc karstiques modérées, de petite profondeur, qui sont, comme par exemple c'est le cas en Gironde, où nous possédons un calcaire tout à fait particulier, qui est pas mal fissuré, parcouru par des rivières souterraines, ce qui permet, sans faire beaucoup de route, au bout d'une heure, une heure et demie, des fois moins, de se retrouver à pratiquer la spéléologie. Mais pour répondre plus profondément à la question, pour aller plus loin, il va de soi qu'ensuite, au fur et à mesure de l'évolution, souvent par l'intermédiaire de stages fédéraux, il y a la possibilité de devenir plus hardi, plus acquéri et plus équipé pour aller voir des puits importants, des gouffres, des grandes cavernes. On se tourne alors soit vers les Alpes, soit vers les Pyrénées, soit vers les Grandes Causses, où là on fait alors usage de dispositifs qui ne sont pas nécessaires en Gironde.
Qu'est-ce que vous découvrez ? Quels sont les lieux que vous avez découverts ? Parce qu'on parle de grottes, on peut parler de grottes, de cavernes, de... Quels sont les lieux ? Est-ce que vous avez été dans différents lieux, hormis des grottes ?
Alors, les parties souterraines, pour la grande majorité des pratiquants, sont des milieux qui sont essentiellement naturels et dans le milieu calcaire. Sous la forme de gouffres, de brèches, de failles, de rivières souterraines à parcourir, etc. Mais il existe en dehors de cette grande majorité de terrains, d'autres domaines plus discrets, qui sont pratiqués de façon moins intense par les spéléologues, comme par exemple les souterrains refuges qui existent dans de nombreuses régions de France et du monde, au temps où il y avait des invasions, des soldatesques, des guerres multiples et diverses, les anciens pratiquaient depuis l'origine de très longtemps des cavités artificielles qu'ils creusaient dans le milieu lorsque le milieu le permettait pour pouvoir se réfugier, se mettre à l'abri, soit pour y placer des denrées alimentaires, soit pour se protéger lorsque leur vie pouvait être menacée. Donc là, en Gironde, on a pas mal de cavités de ce style-là, qui sont bien entendu totalement différentes des cavités naturelles, que l'on baptise de façon simple souterrain-refuge. Alors après, il faut savoir qu'il y a des souterrains-refuges plus ou moins élaborés. La plupart de ces souterrains étaient souvent réalisés par des gens professionnels qui, à la demande, venaient faire les travaux. Alors, il y avait des souterrains qui étaient un simple abri pour se réfugier sans défense possible. D'autres étaient avec des formes de pièges ou de défense. Et c'est pour ça que l'on fait également partie de la Société française d'études des souterrains. De la même façon que, pour répondre un peu à votre question aussi, en dehors des aspects qui sont dus aux constructions de l'homme, il y a la possibilité de découvrir des cavités originales mais naturelles, comme par exemple les tunnels de lave dans les régions volcaniques, ou les grottes glacées. Voilà, donc les parties souterraines ont des formes multiples. Elles peuvent être dans des régions extrêmement diversifiées. Pour compléter votre question, en ce qui concerne en dehors des souterrains refuges, il y a également des lieux particuliers, des abris sous roches. Il y a bien entendu inévitablement toutes les carrières. La Gironde possède de très nombreuses surfaces de carrières où était extrait la pierre à destination des constructions. Et toute la Gironde est percée de trous un peu partout. C'est un domaine extrêmement troué, et qui d'ailleurs pose parfois des problèmes de sécurité. Et il y a des services appropriés qui sont en charge de gérer ces domaines-là, car les risques ne sont pas nuls. Et de temps en temps, il y a des effondrements. Il y a également tout ce qui concerne éventuellement les puits, les cryptes sous une église, donc les châteaux, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, d'une façon globale, la spéléologie et le spéléologue peuvent se retrouver sous terre, mais dans des lieux extrêmement diversifiés. Alors les rencontres, pour répondre à votre question également, elles sont relativement fortuites, puisque en général, on ne sait pas si c'est tout le grand plaisir que l'on a à pratiquer, c'est naturellement la recherche de ce que l'on ne connaît pas, la recherche inconnue. Et donc, il peut arriver, lorsqu'on fait ce qu'on appelle des premières, que l'on tombe par le hasard avec un ensemble de ce que l'on nomme globalement des artefacts, de façon un peu excessive peut-être, mais qui sont en fait des restes rencontrés dans le milieu et qui sont issus de la surface, soit par le fait des eaux qui ont amené sous terre les éléments, ça peut être des restes de poterie, ça peut être des restes d'animaux, et on a également des éléments des fois qui passent par les failles depuis la surface, qui se retrouvent également sous terre. On a rencontré à ce niveau-là aussi des parties qui sont avec des choses issues des temps lointains où existait une forme de vie qui a disparu et l'on a donc de ce fait la rencontre de fossiles en quelque sorte qui sont dans le calcaire qui a été traversé par les eaux, ce qui laisse apparaître des genres de structures particulières qui attirent le regard et on apprend plus tard en s'y intéressant que ce sont les restes d'animaux qui vivaient dans les territoires où nous sommes actuellement. Les territoires en question, effectivement, lorsque nous sommes par exemple en Aquitaine, notre belle région, eh bien, il y avait des eaux qui étaient chaudes, qui étaient installées comme les eaux qui existent actuellement en Floride, où vivaient dans ces eaux chaudes un certain nombre d'animaux, notamment des mangeurs d'herbes, des mangeurs d'algues, genre de phytophages, mais spécialisés, voilà, qui, les squelettes se sont faits dans ces dépôts, la nature a fait son travail, les dépôts sédimentaires sont devenus de la roche calcaire, et quand les eaux ont traversé le calcaire, elles ont parfois ouvert des fissures et on découvre sur les parois les restes de ces animaux qu'on appelait des alitériums, c'est-à-dire dont les descendants sont maintenant connus et qui sont parfois autour dans les musées, quelques espèces, le dogon par exemple, est un petit peu les descendants de ces familles-là. Donc voilà, on a des surprises comme ça, naturelles, que l'on trouve dans les parois où on peut également rencontrer des choses qui sont là depuis très longtemps. Et je peux vous citer une anecdote. Un collègue m'appelle un jour, il me dit, tiens, on a trouvé une dent. Je lui dis en plaisantant, ah bon ? Ah, je lui dis, oui, c'est peut-être moi qui ai perdu une dent la dernière fois. Alors il me dit, écoute, tu dois avoir une énorme trou parce que la dent en question, elle est vraiment énorme. Et alors, lorsqu'on s'est adressé aux universitaires, aux gens du CNRS pour avoir des identifications, on dit, ah ben oui, c'est une dent de rhinocéros laineux. Oh, ah bon, eh oui. Et effectivement, notre région était parcourue dans les temps jadis par des animaux avec les périodes qui existaient dans ces temps-là, c'était celle des toundras. Et il y avait donc des animaux bien couverts avec des rhinocéros, des ours, etc. Il n'y a pas très très longtemps, on a eu un collègue qui a découvert lors d'une première une tête d'ours des cavernes, ainsi que, voilà, donc là on remonte dans le temps avec des surprises comme ça de temps à autre, mais on peut trouver aussi des poteries qui remontent au néolithique, on peut rencontrer également des haches de la période du bronze, ainsi de suite. Voilà. C'est le hasard qui va faire qu'on rencontre fortuitement quelque chose.
D'accord. On fait un très beau voyage. Alors, je vous rappelle qu'on est en direct pour l'émission Les Portes de la Connaissance sur la spéléologie. Voilà, donc on va faire un très beau voyage. On va revenir dans quelques instants après la courte page de musique, puisqu'on va mettre, comme vous avez l'habitude, une musique qui correspond au thème, bien sûr, de la spéléologie. Et on revient tout de suite après. Et après, on va aller à la découverte des grottes, des lieux les plus intéressants qu'il aurait visités. Et on va parler de la spéléologie et découvrir un peu plus en profondeur ce que c'est que de découvrir des grottes, d'aller à la découverte des stalactites, des stalagmites, d'aller découvrir un petit peu tout ça. Voilà. Allez, à tout de suite après cette page musicale.
Dans mystère, la faim, le froid. Suis Spartacus, Bob, Arcana. Oh toi, enfant du ciel, marche sans effroi. Dis-nous que demain il revivra. Sors le chagrin, le soleil de l'oubli.
Voilà, de retour après les mondes engloutis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un beau voyage au centre de la Terre, justement, dans les mondes engloutis. On est en plein dans les mondes engloutis. On est avec la spéléologie aujourd'hui et on rejoint notre ami pour parler de ces découvertes de ces mondes sous la Terre, justement. Et là, on y est en plein. Alors, pour ceux qui rejoignent l'émission en route, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, si ce n'est qu'on a présenté d'abord son association, comment il en est venu à découvrir la spéléologie. Si vous écoutez l'émission en podcast, vous pourrez découvrir tout ça. Vous pourrez réécouter l'émission, elle est en podcast sur les portes de la connaissance, et vous écouterez tout ce qu'il a dit dans la première partie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la spéléologie ? Quels sont les sites que vous avez découverts, que vous avez visités, je dirais ? Et parmi ces sites que vous avez visités, qui ont été, je dirais, des sites importants, est-ce que vous avez fait des découvertes ?
Alors, je vais répondre à votre question, mais je vais faire un petit détour, si vous me le permettez. Le visiteur qui vient sous la Terre, il va subir un changement qui va correspondre à sa propre personnalité. Le monde souterrain est un monde très différent de celui de tous les jours, et donc une approche, une forme d'initiation à la découverte est indispensable en étant accompagné par des gens qui vont petit à petit encadrer, guider celles et ceux qui veulent découvrir ces particularités d'exploration que sont celles que pratiquent les spéléologues. Alors il y a d'abord, pour la notion de l'humain, ce qu'on appellera pour chacun une notion dite de qualification, c'est-à-dire que chaque être qui se présente avec son apparence, sa personnalité, son identité, son âge, ses possibilités physiques, va tout de même avoir au fond de lui une certaine dimension avec ses propres limites, tout aussi qu'il aura également ses propres capacités de développement. Et comme dans beaucoup des choses de découverte de l'existence, depuis la naissance jusqu'à ce que celle-ci cesse d'être, l'idéal est bien entendu d'approfondir l'existence par l'intermédiaire de la pratique. La théorie, c'est quelque chose de très bien, mais la pratique, c'est la praxis, est quelque chose d'absolument important. Si vous avez du miel, vous pouvez l'approcher en faisant une étude de laboratoire, mais vous pouvez aussi le goûter. Si vous êtes un intellectuel, vous pouvez dire « je vais savoir nager, il suffit que j'apprenne un livre de natation par cœur, mais si jamais on vous pousse à l'eau brutalement, c'est pas pour autant que vous saurez nager. Donc c'est un petit peu la particularité d'être immergé dans un certain milieu. Il faut s'adapter à la nature de ce milieu. Pour revenir un petit peu, avant de répondre à quelques questions sur les découvertes, sur la notion de ce qui existe dans notre Gironde bien-aimée, nous avons des étages calcaires tout à fait particuliers qui sont situés entre la Garonne et la Dordogne. Ils sont appelés de calcaire rupélien. C'est une période particulière, une époque qui est entre 33 et 29 millions d'années, pour une épaisseur qui varie de 10 à 30 mètres. Voilà. Cet entre-deux-mers, entre Garonne et Dordogne, donc, est un bassin particulier qui a subi diverses transformations au cours des âges, et ça fonctionne bien sûr par millions d'années. Donc lorsque la Garonne est venue se loger dans la faille qu'elle occupe actuellement, elle a parcouru un certain roulement. Tout ça est lié à des phénomènes que je ne développerai pas, qui risqueraient d'être un peu fastidieux, mais qui est lié à la fois à la tectonique des plaques, aux interactions physico-chimiques avec le calcaire. On a également des points qui sont un petit peu plus nouveaux, comme la fantomisation des roches, etc. Bon, là, on ne va pas développer, parce que je pense que ce serait un petit peu dommage de passer du temps sur ces aspects-là. Voilà, donc les découvertes, c'est bien entendu ce que souhaite chaque personne qui se met à la spéléo, c'est d'être le premier, avoir le premier regard, être le premier à avoir sous les yeux quelque chose que nul autre avant n'a eu la possibilité de voir. Alors ça, c'est la notion de première nécessite inévitablement des volontaires, des équipes qui vont faire en plusieurs étapes de la prospection sur carte, sur analyse selon les notions des bassins versants, les lignes de Talweg, les parties hydrauliques, etc., les natures des sols. Et puis, dans les périodes hivernales, lorsque le végétal est parti, on y voit un peu plus, on va sur le terrain pour faire de la prospection et voir de visu comment ça se présente par rapport aux zones que l'on a choisies sur les cartes. Et là, on va faire des sondages, regarder à gauche, à droite, essayer de comprendre quelque chose. Et lorsque l'on trouvera un endroit tout particulier, avec certaines spécificités qui permettent de se dire « Ah, là, il y a quelque chose à trouver », eh bien, la première des corrections, ce sera d'aller voir les propriétaires des lieux, de solliciter l'autorisation pour pouvoir y pénétrer. Ça, c'est un domaine important, parce que malencontreusement, quelquefois, certains pourraient avoir tendance à oublier que les propriétés ont donc des propriétaires et que la première des obligations de courtoisie et de respect, c'est de demander au moins la permission et de se présenter. Et également, alors après, lorsque l'autorisation est acquise, alors il y a certains endroits, il faut quand même le reconnaître, qui sont très connus et qui ne posent aucun problème, et même les communes, des fois, organisent pour que les passionnés puissent stationner correctement, ainsi de suite. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas justement des sorties, il est intéressant de rappeler que sous terre, le moindre incident, le moindre accident va prendre des proportions extrêmement importantes, ce qui nécessitera parfois d'avoir des secours. Alors on peut signaler, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très connu, que le milieu de la spéléo a une particularité, c'est qu'il a ses propres cadres et ses propres collègues capables de venir organiser et de venir secourir des gens qui se trouvent en difficulté, qu'ils soient spéléo ou pas, puisque bien sûr, quelquefois, il y a des personnes en promenade qui ont des accidents ou des chutes. Voilà, donc la Fédération française de spéléologie possède une équipe de le Spéléo Secours de France, où on a des spéléos de haute volée qui s'entraînent régulièrement pour pouvoir aller secourir des collègues ou des personnes qui se trouveraient en difficulté. Donc, cette notion de qualification par rapport à la personne, c'est la personne elle-même qui, par la pratique dans le milieu, va finir par sentir si elle peut persévérer ou elle va être attirée par une organisation, une dimension particulière, culturelle, etc., ce qui va faire qu'elle va pouvoir s'orienter soit dans un domaine technique, soit dans un domaine pédagogique, soit dans un aspect très technique pour pousser plus loin l'exploration, soit pour encadrer et former des gens. Donc on a toute une forme comme ça. Une des particularités peut-être de la technique la plus poussée qui est venue avec la modernité, c'est le passage des parties noyées, ce qu'on appelle les siphons d'une façon générale. Dans ces cas-là, il est absolument indispensable d'apprendre tout ce qui va avec cette notion de plongée. Et là, la rigueur est absolue, il ne permet aucune faiblesse, puisque bien entendu, si la spéléologie de façon traditionnelle, qu'elle soit horizontale ou verticale, nécessite un certain nombre de règles et d'équipements, lorsque l'on va se retrouver sous terre, en profondeur, avec en plus à y ajouter de la plongée sous l'eau, sous la terre, là, on passe à des dimensions très particulières, où la Fédération d'ailleurs propose des formations à la plongée souterraine. Là aussi, par la patience, par le temps, on apprend à se former, mais on apprend aussi parfois, et c'est indispensable, à savoir renoncer pour mieux raménager, pour mieux s'équiper, et on ne fait pas ça pour avoir de l'adrénaline. En général, la plupart des spéléos qui perdurent dans le temps, ce sont des personnes qui sont d'abord dans l'esprit des explorateurs et qui rejoignent tous les anciens à qui l'on doit toutes les connaissances et les grandes découvertes qui ont eu lieu dans le passé. Donc, il faut être raisonnable, savoir cesser toute action de recherche quand on sent que la fatigue est importante, qu'un collègue a une faiblesse particulière, donc il y a une notion de groupe, de ne pas penser qu'à soi, penser aux autres, avoir une notion de partage. Ce sont des éléments importants dans la vie d'une petite communauté de chercheurs et d'explorateurs. Et ensuite, dire, bon, mais les conditions météorologiques ne sont pas favorables, le propriétaire n'est pas prévenu, voilà. Il y a un certain nombre de choses qui sont à faire, qui sont indispensables. De la même façon, quand on va faire une balade, on met un document sur la voiture pour signaler combien de personnes sont de sortie, à quelle heure on est parti, à quelle branche éventuellement de réseau on a pris, etc. Voilà. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut apprendre et cela ne peut se faire qu'au travers d'une vie commune de partage qui permet ensuite effectivement de faire parfois d'heureuses rencontres avec des choses imprévues et de découvrir. À signaler, juste, mais c'est un point important, que si le hasard vous favorise vraiment et qu'en tant que spéléologue, vous tombez sur un endroit avec un dessin pariétal, des restes absolument extraordinaires, ben là, le premier devoir du spéléo, c'est de cesser d'avancer. Il doit, là, prendre conscience qu'il est témoin d'un moment figé dans l'histoire. Et là, ce n'est plus la place du spéléo, c'est la place de gens spécialisés, de préhistoriens, de chercheurs avancés, qui vont pouvoir prendre le relais. Et la sagesse, c'est dès que l'on trouve un élément forte identité, avec des caractéristiques qui s'approchent de ce qui peut être de la préhistoire ou un lieu important, y compris des restes d'animaux très anciens, etc. Dans ces cas-là, on met un témoin, on fait quelques photos pour avoir un ordre d'idée, on marque éventuellement l'emplacement pour ne pas aller plus loin et on revient. On signale la découverte à la municipalité de l'endroit, aux besoins aux autorités. De toute façon, le responsable d'une municipalité, il a le devoir de prévenir les autorités compétentes lorsque des trouvailles importantes se trouvent. Voilà. Il y a toute une culture, un respect qui est nécessaire chez le spéléologue. Et en plus, celui-ci, il faut ne pas l'oublier, est le témoin dans le quotidien des pratiques de certaines situations qui sont très délicates. Je vais parler de la pollution. Lorsque le spéléologue se déplace, que ce soit en surface ou sous terre, il va être le témoin de certaines particularités, à savoir des dépôts sauvages, nombre d'endroits qui sont avec des objets divers, de démolition, etc., qui ont été jetés, parfois des polluants, etc. Donc le spéléo va se retrouver confronté à devoir prendre en compte cette situation et de participer à ce qui permettra de remettre un endroit en situation et de faire en sorte que les pollutions des eaux, de l'environnement n'existent plus, ou du moins que ça soit pris en compte par les autorités pour que ça puisse être réduit. Il y a en Gironde, il faut le dire, beaucoup d'endroits qui sont extrêmement pollués, soit par des phénomènes induits par la culture, les environnements difficiles souvent à gérer, mais aussi par le comportement excessif, sans respect de la nature. Et là, c'est un véritable travail de longue haleine, et ce n'est pas tous les jours facile. Voilà. Donc, le milieu de la spéléo ouvre beaucoup de choses. C'est une vraie mosaïque d'actions et d'activités. Et tout un chacun, lorsqu'il prend un petit peu de facilité dans les pratiques et dans les cheminements, va pouvoir s'orienter vers un domaine qui va l'attirer plus que d'autres. Donc on va avoir des gens qui vont s'intéresser à lutter justement contre les pollutions, la sauvegarde des milieux, le patrimoine. D'autres vont, comme je le disais tout à l'heure, aussi s'intéresser à l'enseignement, au secours. Mais on aura également tenir compte des découvertes, donc de s'orienter vers des études de géologie ou vers des formes particulières d'études sur le comportement des eaux souterraines, les massifs calcaires, etc., les géologies, j'en passe. Les étendues, chacun va y trouver petit à petit ce qui lui correspondra le mieux. Donc il y a une grande richesse au fil des années. Le spéléo qui a, comme on dit chez nous, attrapé le virus, il va trouver de multiples activités et il ne s'ennuiera jamais.
D'accord. Alors, juste pour... parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui donne le plus d'adrénaline, je dirais, quand on est dans une grotte, c'est de découvrir... des stalactites, des stalagmites, de découvrir une cathédrale, par exemple, dans les grottes, de découvrir qu'est-ce qui donne le plus... Ou c'est de partir à la découverte. Qu'est-ce qui est le plus amplifiant, je dirais, dans le fait d'aller à la découverte des grottes? Quelle émotion ça peut dégager?
Alors, j'ai eu la chance, par un parcours, parce que je suis tout à fait très jeune, j'ai eu la chance de rencontrer Aaron Taziev, de converser avec lui pour des choses très particulières. Et il avait trouvé la formule qui correspondait bien pour dire pourquoi les gens partaient sous terre. Parce que lui-même s'était investi dans un accident à la Pierre Saint-Martin qui avait fait la une des grands journaux. Et ça avait été un drame avec la mort de Lubens. Pour une défaillance mécanique lors de la descente dans la cavité. Et donc après, il a fallu aller rechercher le corps plus tard. Enfin, ça a été quelque chose d'assez terrible. Et donc, Aaron Taziev avait participé avec d'autres. Et il s'était posé la question, il s'est dit, mais pourquoi finalement les hommes prennent autant de risques, de difficultés pour aller sous terre? Pourquoi? Il s'était interrogé. Et puis il avait... trouver la réponse en grattant un peu sans doute dans ses fonds intérieurs. Et il avait dit, en fait, je m'étais rendu compte qui attirait l'humain, c'était l'attrait de l'inconnu. Et effectivement, c'est souvent le cas. Lorsque les gens ont passé un certain cap dans leur propre cheminement, la spéléologie, c'est avant tout la recherche de l'inconnu. Alors là, s'ouvrent bien sûr des particularités, donc je ne peux pas ne pas en parler. C'est ce que j'ai évoqué il y a quelques instants aussi, c'est la notion des siphons. Lorsqu'on est passeur d'eau souterraine, on est d'un type particulier ou d'un autre. Le plongeur souterrain peut être soit un plongeur, il arrive avec son véhicule, il se change et il se met à l'eau d'une résurgence ou d'une perte, et puis il va faire la plongée sous l'eau, sous la terre. Après, il y a une autre catégorie de plongeurs qu'on appelle les plongeurs fond de trou. ce qui modestement, mais parce que j'étais poussé par la curiosité, a été mon cas. Dans ce cas-là, on est un spéléologue traditionnel. Et ensuite, arrivé à la barrière liquide, on se change pour devenir un plongeur souterrain. Là, le risque, bien entendu, est absolument maximum. Et dans le cas où jamais rien n'a été franchi, ce qu'on appelle la première, une seule personne va y aller. C'est une première. Alors pourquoi ? Bah parce qu'il vaut mieux éviter d'avoir plusieurs personnes avec des accidents. Donc c'est souvent la solitude qui permet la sécurité à limiter la nature des risques. C'est-à-dire que ce n'est pas très gai, c'est pourtant un fait bien concret. Et des risques effectivement majeurs. Alors le plongeur spéléo, il a au minimum rien à voir avec d'abord la plongée en mer. Ça n'a strictement rien à voir. Il a au minimum deux bouteilles distinctes et séparées qu'il remplit d'air chacune de façon séparée. Chaque bouteille est équipée avec un détendeur et des contrôleurs de pression. Je ne rentrerai pas dans les détails. Les éclairages sont doubles, triples, plus si nécessaire. Les équipements pour le froid, etc. Donc c'est tout un travail. Et le premier qui passe va dérouler ce qu'on appelle un fil de vie ou fil d'Ariane, qui va être souvent la nécessité indispensable pour retrouver son chemin sur la voie du retour. Parce que bien souvent, lors des passages, l'eau se touille et on n'y voit plus rien du tout. Donc s'il n'y avait pas le fil pour retrouver le chemin, on risque d'avoir des surprises. Alors, en Gironde, j'ai fait quelques particularités en première qui n'ont jamais été refaites depuis d'ailleurs, mais ce n'est pas pour évoquer ça, c'est pour dire qu'on n'y voit rien du tout. C'est étroit, c'est extrêmement dangereux. Et donc la plongée ne doit pas être faite pour avoir de l'adrénaline ou autre. C'est vraiment quelque chose qui ne doit être pratiqué que dans un souci de découverte pour aller plus loin et savoir qu'est-ce qui peut être derrière un siphon, une barrière liquide. Dans ces cas-là, éventuellement, si techniquement c'est concevable, on peut envisager, avant la plongée, de faire du pompage. Mais des fois, il est intéressant aussi de voir si par les extérieurs, par un autre endroit, on ne peut pas strapper, court-circuiter le dit siphon afin d'éviter les risques. Par contre, dans les grandes régions calcaires, dans le Lot ou ailleurs, on a des dimensions aquatiques souterraines absolument extraordinaires, où l'eau est transparente comme l'eau du robinet. C'est extraordinairement merveilleux et c'est un grand bonheur quand on peut le faire que de pouvoir y plonger. À la suite d'un stage avec la Fédération française de spéléo, j'avais eu la possibilité de plonger la résurgence de Padirac. C'est un émerveillement. Ça a été quelque chose de très impressionnant, où j'ai eu l'impression d'être un oiseau qui volait dans une caverne. C'est absolument extraordinaire. Je ne développerai pas, mais mes collègues avec qui on a souvent parlé de ces petits passages extraordinaires, c'est vrai que c'est des moments absolument fantastiques. Voilà, donc c'est un univers. La spéléologie, c'est un univers dont on ne se lasse jamais et qui a toutes les dimensions, les plus subtiles et les plus gigantesques quelquefois, soit dans les... Voilà.
Alors, pour finir, est-ce qu'on incite, est-ce qu'il y a d'abord les associations de spéléologie, est-ce qu'il y en a dans la Gironde, il y en a beaucoup ou pas ?
Alors, pour tous les domaines souterrains, globalement, il faut le dire, il y a inévitablement, c'est une longue histoire, la Fédération française de spéléologie, dont les balbutiements ont été dus à un très grand spéléo en 1888. Et ensuite, il y a eu des périodes qui ont fait qu'on est, en ce début, le premier tiers du XXIe siècle, avec une organisation absolument magistrale, où, héritant de tous ceux qui ont participé, on se retrouve avec des formations. Alors, formation à l'étude des calcaires, de la géologie, formation technique pour apprendre à être autonome, à porter secours, à aller loin, formation pour l'étude du milieu, que ce soit les eaux souterraines, que ce soit la biospéléologie, que ce soit des prémices pour approcher la préhistoire par l'intermédiaire de formations et de gens spécialisés, la formation à la plongée souterraine, etc., etc. Donc le premier élément de contact qui est une excellente référence en la matière, c'est de s'adresser à la Fédération française de spéléologie ou éventuellement, pour ceux qui sont également passionnés par les montagnes, vous avez le Club alpin français qui a eu un grand rôle aussi dans les origines. Après, pour des domaines un peu plus particuliers, on a la Société française d'études des souterrains qui regroupe également des spéléologues et qui permet de son côté d'ouvrir alors sur des choses qui sont plutôt dans le domaine où c'est le travail de l'homme qui a fait qu'on a visité les souterrains de châteaux, les souterrains refuges, ainsi de suite. Et surtout, ne pas oublier qu'il existe des ponts entre les fédérations. Je veux évoquer par exemple la Fédération française d'études et de sports sous-marins, où moi-même je suis initiateur de plongée, ce qui n'est pas un niveau terrible, mais qui est quand même utile, et où là aussi on a une section spécialisée qui permet à des gens de spéléo spécialisés dans la plongée souterraine. Donc après, toutes ces organisations au niveau national ont des regroupements de moindre étage, soit par région, soit par département. Dans ces cas-là, on a ce qu'on appelle les comités départementaux, quelle que soit d'ailleurs la nature de la fédération. Voilà, donc on ne peut qu'inviter, avec les moyens modernes de communication qui sont ceux mis à la disposition de tout le monde, à rechercher en tapant Fédération française de spéléologie, Fédération française d'études de sports sous-marins pour ceux qui sont déjà dans la plongée, qui voudraient s'orienter vers la plongée souterraine, ou vers le club alpin français si les parties de spéléologie les intéressent tout en faisant des activités en montagne. Il y a donc suffisamment d'endroits pour être pleinement informé.
Merci beaucoup. Merci pour cette belle émission. Merci d'être venu. Est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook? Est-ce que vous avez quelque chose
Pas en particulier, parce que je me suis efforcé de rester totalement neutre pour n'influencer personne. La seule chose que je peux indiquer, c'est de s'adresser aux organismes que j'ai évoqués en tapant Fédération française de spéléo. Tous les clubs apparaîtront, les informations seront mises à disposition, idem avec le club alpin français ou avec la Fédération française d'études de sport souterrain. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'un certain nombre de professionnels existent dans différentes matières spécifiques, parce que, bien entendu, la spéléologie est devenue une science à part entière et il n'y a pas que l'activité strictement sportive.
Merci infiniment, merci pour cette belle participation. Voilà, notre émission des Portes de la Connaissance se termine. Sachez que la semaine prochaine, on abordera un sujet complètement différent. On accueillera les Maraudes du Cœur de Bordeaux, qui est une association qui s'occupe des exclus, c'est-à-dire des gens qui sont dans la rue. Malheureusement, à Bordeaux, il y a beaucoup de personnes qui sont SDF et qui malheureusement n'ont pas la chance d'avoir un appartement comme nous, d'avoir la chance de pouvoir manger tous les jours comme tout le monde se doit. Voilà, vous aurez cette émission. La semaine d'après, on accueillera les pilotes de chasse de Cazaux, les pilotes d'Alpha Jet et de Mirage, qui viendront nous parler de leur métier. Et puis on aura autre chose aussi, on aura d'autres émissions, on aura Inframer qui doit venir nous parler des métiers de la mer, de plongée sous-marine et des métiers avec les sous-marins pour pouvoir aller explorer les fonds sous-marins, les abysses, les fonds abyssaux. On aura aussi Terre d'abeilles qui va venir nous parler de la disparition des abeilles. Enfin, vous voyez, il y en a plein. Il y aura d'autres émissions. Il y aura une émission aussi sur l'exploration du système solaire avec quelqu'un qui viendra nous parler, un scientifique qui viendra nous parler du système solaire. Donc, on a plein d'émissions en vue. Et voilà. Donc, je vais repasser la parole à notre invité parce qu'il a quelque chose à nous dire.
Oui, c'est tout à fait par rapport à ce que vous venez de présenter. Ça va être très intéressant. Je pense qu'il y aura des oreilles attentives qui vont être un petit peu stimulées. Figurez-vous que l'activité de spéléologie est pratiquée lors des entraînements des cosmonautes ou des astronautes, selon le terme que l'on voudra choisir. Effectivement, c'est un milieu très particulier qui va permettre d'enrichir les attitudes et les comportements de nos futurs explorateurs de l'espace. Et pour terminer, on sait que sur le corps, par exemple, trop proche de la Terre, à savoir la Lune, on aperçoit quelques particularités souterraines et qui sont envisagées de façon très sérieuse par les grandes sociétés et autres pour avoir des accès avec des spéléologues sur la Lune et peut-être sur d'autres planètes plus tard. Mais là, c'est une autre aventure, mais c'est une réalité.
Merci infiniment, merci beaucoup. Donc à la semaine prochaine pour les maraudes du cœur, voilà, à la semaine prochaine. Et puis, bonne semaine à tous et à vendredi prochain. Voilà, au revoir.
Merci à vous.
Les portes de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.